Vous écoutez France Culture. Survivre ne suffit pas. Émilie Saint-John Mandel. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre, enregistré en ce samedi dans le cadre du Festival America de Vincennes. Mauvais genre qui recevra à l'occasion de la sortie française aux éditions Rivage de son quatrième roman, Station Eleven, la romancière américano-canadienne Émilie Saint-John Mandel, entre errance post-apocalyptique et romance hollywoodienne, une nouvelle voie science-fictive et dramatique pour le roman noir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Mauvais genre qui est enregistré, je le répète, en ce samedi après-midi, eh bien, au Festival America, le Festival America biannuel qui tient évidemment son rang, puisqu'on peut y découvrir cette année tout un tas d'auteurs passionnants, notamment, je citerai pour les amateurs de romans noirs et de sagas, Marlon James, et puis on retrouvera également d'autres figures charismatiques comme celle de James Ellroy, et puis également Megan Abbott, et ce soir, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Saint-John Mandel, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes donc l'invité du festival, c'est votre première venue en France, vous êtes venu déjà souvent dans les festivals, vous êtes une habituée.
It's actually my fifth or sixth time in France.
I think I've been
coming for a number of years, ever since my first novel to be translated into French.
Premier roman qui a été traduit en français. J'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois en France.
Came out here in I think about 2011
or so. Venu ici en 2011.
I've been coming ever since.
Et depuis,
I love coming to Paris.
This is my first time. C'est la première fois que je vais au festival America à Vincennes.
It's been a pleasure so far.
Partly just to run into all these authors that I've met at festivals all over the auteurs que je rencontre de temps en temps dans des festivals aux États-Unis et puis c'est formidable de voir cette banlieue de Paris que je ne connaissais pas.
Et la fréquentation de Paris vous a nourri un peu votre inspiration romanesque. Est-ce que les commentaires éventuels des lecteurs français ont apporté du grain à moudre pour la romancière américaine que vous êtes, Émilie Saint-John Mandel?
Perhaps it would be politically smart to say yes, but in fact,
I can't think of. Politique, je me dis que ce serait astucieux de dire oui, mais en fait, rien ne me vient à l'esprit.
I can't think of a specific question from a Parisian
reader. Non, je ne me souviens d'aucun commentaire ou question d'un lecteur ou d'une lectrice de Paris. Cela dit, le voyage en tant que tel vous met dans une position de déséquilibre en tant que roman. Donc, sa vie se trouve un petit peu bouleversée et c'est très utile quand on est écrivain. Et c'est du reste utile en n'importe quelle profession, je suis en train de me dire. Donc, on casse un peu la routine, on mène une vie un petit peu différente pendant une ou deux semaines, c'est quand même très constructif.
Alors, le voyage, l'errance et la disparition de toute forme de routine et d'habitude sont au cœur donc, de ce roman dont nous allons parler, Émilie Saint-John Mandel, donc Station Eleven, un roman largement post-apocalyptique, donc un roman qui amène l'humanité à refonder et la civilisation et toute forme de mode de vie. Ricardo Donoso, Anaphase, un choix de Laurent Polleret pour la playlist de ce soir, America, Mauvais genre America, et qui accueille donc Émilie Saint-John Mandel. On va essayer de d'abord vous découvrir un petit peu dans le parcours qui a été le vôtre. Émilie Saint-John Mandel, vous êtes la deuxième d'une famille de cinq, l'habitude de partager et de connaître bien les habitudes familiales. D'ailleurs, ça se voit tout à fait dans vos romans. Vous avez vécu longtemps dans une île de l'ouest des États-Unis, enfin plutôt du Canada, la Colombie-Britannique, puisque vous êtes canadienne d'origine, l'île d'Enman. On peut en parler un peu de cette île, puisque là aussi on la retrouve sous une forme un petit peu transformée dans Station Eleven. Le fait de grandir dans une île, et d'une île pareille, qu'est-ce que ça apporte à une romancière ?
Station Eleven is, of course, not by any means an autobiographical work.
Station Eleven, ce n'est pas une autobiographie. Ça se passe dans l'avenir. Cependant, la relation entre deux des personnages et l'île, Miranda et Arthur, sont tous les deux originaires de l'île que je dénomme Delano, qui s'appelle Denman. Et cette partie-là est autobiographique. Mon expérience d'avoir grandi sur une île, c'est que d'abord, c'est l'endroit le plus beau du monde. Tout le monde vous connaît, tout le monde connaît votre famille, tout le monde sait d'où vous venez, ce que vous faites. Et évidemment, il y a des gens à qui cela convient. Il y a ce sens de communauté, chacun se connaît, ça c'est chouette pour certains. En réalité, moi ça me donne un sentiment de claustrophobie en quelque sorte. Dans Station Eleven, il y a le personnage d'Arthur qui dit « c'était magnifique et j'en étais claustrophobe, j'ai adoré mais je voulais partir ». Eh bien moi, c'était mon sentiment quand j'avais 13, 14, 15, 16 ans. Mais j'ai donc quitté le domicile familial et je me suis installé à Toronto et Arthur et Miranda ont une expérience similaire. Il s'agit de pouvoir en ville pouvoir se trimballer dans la rue et on ne voit que des inconnus, des gens qui ne savent pas qui vous êtes et qui ne savent rien de votre vie. Mais lorsque vous vivez dans une petite communauté, cette intimité et ainsi de suite, c'est un petit peu quelque chose qui génère de la claustrophobie. Donc je vais à Toronto et c'est le contraire radical de Devon Island. Il y avait une intimité que j'ai retrouvée parce que j'ai vécu dans un endroit beaucoup plus important par la population. Maintenant je vis à New York, donc je vais de grande ville à une très grande ville. S'agissant de l'île elle-même, eh bien elle est comme je l'ai décrit dans Station Eleven. 5000 personnes, c'est exactement la même superficie que Manhattan. Un jour, j'ai dit ça à un ami new-yorkais et il m'a dit « Qu'est-ce que vous faites de tous les appartements vides ?» Il n'y a pas d'appartements vides sur l'île.
Donc,
on ne voit pas la maison du voisin parce qu'il y a la forêt au milieu et puis il y a des biches en plein milieu de la route tout sans arrêt lorsque l'on conduit. En réalité, c'est pas si loin de la civilisation. Il suffit de prendre le ferry et en 10 minutes, on se retrouve sur le territoire principal du Canada. Mais bref, on mène une vie insulaire, une vie de petite communauté et j'imagine que c'est le cas dans d'autres petites îles.
Alors dans cette île d'Enman où vous avez grandi, quelle lecture peut-on faire ? Quelles ont été vos lectures marquantes, les films ou les bandes dessinées, puisque les comics sont également au cœur de Station Eleven, qui vous ont marqué, Emily St. John Mandel ? Est-ce que vous aviez accès aux tout dernières parutions ou est-ce qu'au contraire vous pratiquiez les classiques ? Comment s'est formée votre culture d'écrivain ?
Je n'ai pas été à l'école.
I've noticed in the United States is very often code for very hardcore fundamentalist Christianity.
Alors aux États-Unis, quand on dit je n'ai pas été à l'école, c'est mes parents qui m'ont élevé et tout ça, on a l'impression que c'est des Américains qui sont dans le dessin intelligent, par exemple, et qui ne veulent pas que leurs enfants aient accès au reste de la société. Alors qu'en réalité, moi, c'est pour des raisons purement pratiques, parce que les écoles du coin n'étaient pas formidables, donc je suis resté à la maison pour suivre l'éducation scolaire. Donc c'était à titre expérimental, la première année, puis ça s'est poursuivi pendant 10 ans. Donc mon éducation était essentiellement basée sur la solitude et le fait d'être seul. Je me souviens avoir lu un dictionnaire lorsque j'avais 10 ans, par exemple. Mes parents, c'était intéressant rétrospectivement parce que nous n'étions pas fortunés. Mon père était agriculteur, puis plombier, ainsi de suite. Ma mère, elle était femme au foyer jusqu'à ce que j'ai 13 ans. Mais mes parents sont des gens qui jouent un rôle très important, des gens qui ont des valeurs et ainsi de suite. Donc, on n'avait pas une grande maison, mais on avait une pièce consacrée aux livres et à la lecture. Donc, moi, j'ai lu des tas de romans, peut-être des romans qui n'étaient pas de mon âge lorsque j'avais 10 ans, mais j'ai lu des biographies de la reine Elisabeth, des œuvres de fiction allemande, de la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui me passait par les mains, je le lisais. Rétrospectivement, c'est difficile de dire quel livre m'ont influencé quand j'étais enfant. Mais quand j'avais 14 ans, je me souviens que j'ai voulu lire Le patient anglais de Michael Ondaatje. Et ça, ça a eu un impact important sur moi. C'est peut-être ça, le livre qui m'a fait me rendre compte de la beauté de la prose. Il va falloir peut-être que je le lise pour confirmer ce point de vue, mais si vous me demandez un livre qui m'a influencé lorsque j'étais jeune, eh bien c'est Le patient anglais.
Quand on lit vos romans, Emily St. John Mandel, on pense parfois au thriller hard-boiled, on pense également à la science-fiction sous sa forme, je dirais, la moins scientifique et la plus anthropologique, essentiellement la science-fiction apocalyptique. Quelles ont été vos lectures sur justement les genres littéraires qui nous intéressent dans cette émission? Est-ce que vous êtes une lectrice de Dashiell Hammett, de Chandler? Est-ce que vous avez lu la SF des années 70?
Oui, quand j'étais gamine, je lisais beaucoup de science-fiction aussi. Une série de livres, malheureusement, je ne me souviens pas du nom de l'auteur ou des titres des ouvrages, mais c'était des livres post-apocalyptiques, des dystopies, des gens qui vivaient dans des milieux parallèles. Il y avait des gens qui vivaient dans des centres de recherche scientifique et ainsi de suite. Vous citez Chandler et Hammett, oui, j'ai lu. Ces deux auteurs. Chandler a eu beaucoup d'influence sur moi. Chandler a cet essai formidable qui est l'art simple du meurtre. Dans ce livre, il traite du genre même et il parle des protagonistes. Il dit, vous avez les personnages typiques du roman noir, mais pour ces protagonistes, il dit qu'il y a un personnage qui est celui-là, qui est le stéréotype, mais il y a aussi dans cet homme l'aspect de sa personnalité qui est dénué de peur et dénué de toute tache de personnalité. Pour revenir à la science-fiction, c'est intéressant parce que je n'ai jamais eu l'intention de me plonger dans quelque genre que ce soit. Pour mes quatre livres, je me suis dit, tiens, je vais écrire de la fiction littéraire d'ordre général. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à d'autres journalistes, lorsque l'on se lance dans un polar, il faut qu'il y ait un policier. Mais si on écrit de la fiction qui se passe dans l'avenir, eh bien, on va vous étiqueter comme étant un auteur de science-fiction. Le roman de science-fiction qui a le plus grand influence sur moi, c'est un livre de Walter Miller. Je l'ai lu quand j'avais 15 ans. Je crois qu'il est sorti en 1960.
Il raconte aussi l'histoire post-apocalyptique.
Oui, tout à fait. Mais une époque post-apocalyptique différente. Et c'est ça qui m'a donné le premier désir d'imaginer ce que pourrait être le monde après un événement d'apocalypse.
Mauvais genre, François Angelier.
Mauvais genre qui reçoit aujourd'hui dans le cadre du festival L'Américain Emily St. John Mandel, donc à l'occasion de Station Eleven. Alors on peut vous lire aux éditions Rivage depuis le départ, Emily St. John Mandel, vous avez même réussi à faire pleurer François Guérif, ce qui est quand même une performance, parce que quand on connaît la familiarité, la connaissance et la puissance d'analyse qu'a Guérif de cet univers du roman noir, le faire pleurer est vraiment une réussite. Bravo. Et donc les quatre titres, je peux les citer, donc indépendamment de Station Eleven, Dernière nuit nuit à Montréal, on ne joue pas avec la mort et variation Sébastien. Et ce qui est quand même extrêmement marquant dès le départ, effectivement, vous parliez de lecture ouverte, d'un refus et puis peut-être d'une impossibilité de vous focaliser sur un genre plutôt qu'un autre, une volonté d'avoir une sorte d'écriture comme ça, totalement libérée, totalement personnelle. C'est vraiment marquant que vous restez à distance, avec une distance, je dirais, pas respectueuse, mais prudente et avisée de tout ce qui est des codes, de tout ce qui est des règles des genres. Vous pratiquez une littérature qui semble passer d'un genre à l'autre, mais sans violence. C'est à la fois du roman psychologique, du mélodrame, du drame passionnel, du polar, du thriller. Et tout cela, comme ça, sans rupture nette et sans violence stylistique.
Thank you.
Non, mais merci, je prends ça comme un compliment.
The idea I've always had with writing is that it seems to me that a great many novels are either very strongly plotted, but
il y a soit une histoire très importante, c'est ce que l'on retrouve dans les romans, et à ce moment-là, on met les personnages un peu de côté. Ou alors, l'histoire importe moins, mais évidemment, on s'intéresse à la personnalité des personnages et à leur évolution. Moi, j'ai toujours voulu mettre l'accent sur les deux. Sans sacrifice, pour mes quatre livres, j'ai voulu écrire un roman avec des qualités littéraires, à savoir du point de vue stylistique et de la description des personnages, avec l'importance du récit. Je crois que je veux le beurre et l'argent du beurre, en quelque sorte, lorsque j'écris. Alors, j'essaye d'écrire les livres que j'aime lire. Un roman idéal, ce serait l'histoire secrète de Donna Tartt. Ce livre de Donna Tartt, il est remarquable d'un point de vue de l'écriture littéraire, mais en même temps, c'est un thriller. On ne peut pas le poser, ce livre, dès qu'on a commencé à le lire. Et c'est ça que je vise. C'est un petit peu mon modèle, ça. On met des étiquettes sur les différents genres et je ne trouve pas ça forcément très utile. À mon avis, François Garrigue serait sans doute d'accord avec moi. Parce que lorsque l'on prend un roman comme Crime et Châtiment, on ne se dit pas que c'est un polar, on dit que c'est de la littérature, évidemment. Mais je ne vois pas pourquoi les polars ne doivent pas être considérés comme dans les romans littéraires. C'est de la littérature, c'est vrai que ça se passe avec des policiers, il y a des crimes, il y a des châtiments, on est d'accord. Donc, à mon avis, il est logique pour le lecteur de pouvoir s'y retrouver dans les livres qu'ils choisissent de lire. Donc, ils vont à la librairie et puis là, l'étagère des polars. Donc là, ils vont s'y retrouver. Mais si l'on écrit à cheval entre plusieurs genres, ce qui semble être mon approche, eh bien, les lecteurs viennent vous voir et vous disent « J'ai entendu certaines choses à propos de vos livres, mais moi, je ne lis pas de science-fiction, donc je ne vais pas vous lire. » Ou alors, il y a des gens qui viennent me voir en me disant « Ah, j'ai entendu des trucs sur vos livres, mais moi je ne lis que de la science-fiction, donc je ne vais pas lire ce que vous écrivez non plus. » Donc ça peut être un peu frustrant quand on est écrivain d'entendre des remarques comme ça, mais cette classification en genre, c'est assez subjectif tout de même. Hein.
Mais c'est ce qui fait, je dirais, la modernité réelle de vos textes, c'est que vous incarnez le phénomène général aujourd'hui de dépassement des classifications et d'effacement des cloisonnements littéraires. Aujourd'hui, on est dans une écriture qui a assimilé toutes ces littératures de genre et qui peut enfin se penser indépendamment de tout ralliement, de toute bannière et de tout label. Et vous en êtes un très très bon exemple, Émilie Saint-Jean-Mandel. Par ailleurs, ce qui est quand même également marquant, c'est que on a l'impression que il y a toujours dans votre style et dans votre manière de raconter des histoires, même que ça peut être l'enlèvement d'un enfant, l'histoire d'une famille, de personnages, de voleurs, d'intrigants, il y a toujours chez vous le désir d'une certaine sérénité, voire de décantation. C'est que vous n'êtes jamais, je dirais, la tête dans le four, véritablement à répercuter la violence. Il y a toujours un jeu, une espèce de sas entre vous et l'histoire qui, vous nous la racontez, vous ne masquez pas ses intensités et sa violence, mais vous êtes toujours en décantation. Vous êtes toujours avec une espèce de recul, de respiration, je dirais.
I think the that goes to a philosophy that I've adhered to generally when it comes to violence.
Il y a une philosophie à laquelle j'adhère s'agissant de la violence.
Moi, il me semble
qu'il faut être le plus léger possible pour rendre l'intensité de la violence. Dans Station Eleven, par exemple, il y a un passage à l'aéroport, juste après le moment apocalyptique, où il y a un avion qui roule et qui essaye d'aller le plus loin possible plutôt que de s'approcher le plus possible de l'aérogare. On entend la communication radio, quelqu'un entend le mot quarantaine.
Eh bien,
à mon avis, ça suffit pour le lecteur. Le lecteur peut imaginer l'horreur la plus indicible. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a cette pandémie qui vient de faire éruption et il y a eu cet auto-sacrifice de tous les passagers et de l'équipage de l'avion plutôt que d'arriver à l'aérogare.
Let's say the prophet's early life as a child in the novel.
La vie d'enfance du protagoniste qui était très dur au début du roman. J'ai pas besoin d'en dire davantage pour le lecteur. Il faut que je laisse le lecteur imaginer les choses. Et à mon avis, l'imaginaire du lecteur peut être aussi horrifique que le mien. Donc, j'en dis le moins possible. C'est une de mes règles. Mais il faut quand même noter qu'il y a d'autres auteurs qui décrivent la violence de manière très explicite. Alors, c'est comme ça qu'ils travaillent. Je n'ai rien contre, mais j'ai lu, par exemple, Atticus Lish, Préparation pour la vie suivante. Le titre français est différent de cela. Je ne me souviens pas très bien de ce livre. Il est là, au festival, cet auteur. C'est un livre absolument extraordinaire. Je l'ai beaucoup aimé. Il décrit la violence dans tout ce qu'elle a de plus dévastatrice et dans son ouvrage ça marche remarquablement bien. J'ai beaucoup de respect pour des auteurs qui arrivent à faire cela comme Atticus Lish et il faut quand même que le lecteur fasse travailler son imagination.
D'Atticus Lich, qui a marqué Amélie Saint-Jean-de-Mandel et dont nous parlions, s'appelle Parmi les loups et les bandits, chez Buchet-Chastel, qui est invité également, Atticus Lich, de ce festival America de Vincennes. Alors, on évoquait chez vous ce refus des genres et puis toujours cette distance prudente que vous gardez à l'égard des univers littéraires pour ne pas vous faire dévorer par justement les codes et les lois. Émilie Saint-Jean-de-Mandel, alors avec Station Eleven, là, vous faites un grand écart que personnellement, je n'avais jamais vu dans aucune littérature, aucun livre, puisque à la fois, vous nous narrez une histoire d'amour extrêmement complexe qui fait penser, je ne sais pas, à une sorte de Douglas Sirk d'aujourd'hui, entre Arthur Leander et Miranda, lui, jeune comédien canadien, enfin jeune personnage appelé à devenir une star d'Hollywood, et elle, un personnage qui a toujours dans sa musette un extraordinaire comics qui s'appelle Station Eleven, parce que Station Eleven, c'est avant tout un comics. Et donc, l'histoire très complexe et très violente, on peut le dire, sentimentale, affective, érotique entre ces deux personnages. Alors ça, c'est un des pans, puisqu'on découvre là aussi l'univers du cinéma. Et l'autre volet, et tout cela est parfaitement mis en phase et parfaitement conçu et configuré, eh bien c'est un roman post-apocalyptique, puisque je livre donc la clé de l'énigme. La Terre a été dévastée par une maladie absolument redoutable, une pandémie définitive et atroce qui s'appelle donc la fameuse grippe de Moscou, une grippe porcine qui a dévasté la totalité de la planète et qui a amené l'humanité à retourner aux âges archaïques, c'est-à-dire à être privée de toute forme de technologie, de toute forme de confort, de toute forme de protection et de sécurité, et à repartir, puisque là, tout se passe, donc votre roman se passe du côté de Chicago, ce qui fut les plus grosses métropoles du monde, et là, qui sont aujourd'hui des décors un peu oubliés, que la nature redévore et mastique méticuleusement. Donc, à la fois, le grand écart narratif, Emily St. John Mandel, une histoire d'amour assez violente dans le milieu largement du cinéma, et puis, le post-apocalyptique qui d'habitude se suffit à soi. Quand on voit La Route de Cormac McCarthy, on est plongé immédiatement dans l'horreur du survival, l'homme et l'enfant qui luttent contre toutes les formes de péril, qui luttent contre cette nature qui est redevenue maîtresse du monde. Alors là, comment c'est décidé, cette espèce d'arc électrique, ces deux pôles terribles du roman que vous traitez comme à votre habitude, avec beaucoup d'élégance, de délicatesse et extraordinairement de nuances?
Thank you for the kind words about the book.
Merci, je prends ça comme un compliment aussi.
C'en est un.
I think what's relevant here is my starting point for Station 11.
Prenons le point de départ de Station 11.
Which was that originally, it was going to be set entirely in the present day.
Ça devait se passer à l'heure actuelle.
And it was going to be about the lives of actors in a traveling theater company.
Ça devait porter sur la vie de comédiens dans une troupe itinérante. Donc Arthur allait mourir sur scène, comme c'est le cas dans le roman. Donc j'ai toujours voulu ça. Et je savais que la structure n'allait pas être linéaire, donc il y aurait des retours en arrière et qu'on saurait plus de choses sur Arthur par la suite. Bien. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une dimension supplémentaire que je voulais aborder au-delà de la vie des comédiens dans une troupe itinérante. Je voulais décrire cette notion extraordinaire de technologie que nous vivons, nous. C'est des choses miraculeuses. On trouve ça banal aujourd'hui, mais vous pouvez prendre un téléphone portable, faire une série de numéros. Là, ça vous met en rapport avec un satellite. Le satellite transmet le signal vers la Terre. Ça s'appelle un téléphone en réalité. C'est quoi? C'est un ordinateur. C'est un ordiphone. Et nous avons tous des téléphones qui sont bourrés de connaissances. On peut traverser l'Atlantique en 6 heures. Lorsqu'il y a, par exemple, une épidémie. Donc, là, ce sont des outils absolument extraordinaires que l'on considère comme étant banal aujourd'hui. Mais bon, on ne fait pas toujours attention aux choses évidentes. Et une façon intéressante de remarquer cela, c'est de pencher sur leur absence éventuelle. Donc, je garde l'idée d'origine, donc cette troupe shakespearienne itinérante, mais je prends un univers post-apocalyptique. Et à mes yeux, parce que je pensais à des thèmes plus larges que l'aspect qu'aurait le monde après l'effondrement de la civilisation, des choses comme l'importance de l'art dans notre vie. Et étant donné qu'il y avait d'autres thèmes que je voulais aborder, j'ai voulu parler de la culture des vedettes. Ça me fascine, mais il y a aussi des parts obscures là-dedans. C'est d'autant plus intéressant. Et il m'est apparu qu'il serait logique de faire des allers-retours entre le présent et ce paysage post-apocalyptique. Et donc, voilà, c'était ça mon idée, et je me suis rendu compte que, en mettant en contraste ces deux aspects, j'arriverais à amplifier les qualités des deux aspects, si je puis dire. Donc, on peut avoir des personnages dans un roman post-apocalyptique qui vous disent « Ah, tu te souviens comme c'était formidable lorsqu'on avait des téléphones portables ?» Ou alors, on pourrait mettre un chapitre où il y aurait des personnages qui ont encore des téléphones portables. Et ce contraste m'a paru intéressant. C'est ainsi que je me suis lancé dans l'écriture. Et la conception de ce livre, c'était un petit peu comme faire un puzzle. sol. Il y avait quand même beaucoup d'éléments. Il y avait les bordures, il y avait le passé, le présent, les choses qui s'intègrent bien, les choses plus difficiles à trouver. Donc, il m'a fallu en fait un tableur Excel. J'ai travaillé comme ça et c'est ainsi que j'ai fabriqué mon plan, chapitre par chapitre. Et c'était nécessaire pour garder la cohérence dans mon esprit. C'est intéressant comme approche d'écriture. Alors, on dit que c'est un roman post-apocalyptique, vous l'avez dit vous-même. Mais à mes yeux, il y a certains passages qui se passent à l'heure actuelle, à notre époque, et ces passages sont tout aussi importants.
Liste non exhaustive. Plus de plongeons dans des piscines d'eau chlorée éclairées en verre par en dessous. Plus de matchs de baseball disputés à la lumière des projecteurs. Plus de luminaires extérieurs sur les vérandas attirant des papillons de nuit les soirs d'été. Plus de trains filant à toute allure sous la surface des métropoles, mues par la puissance impressionnante du troisième rail. Plus de villes. Plus de films, sauf rarement. Sauf avec un générateur noyant la moitié des dialogues. Et encore, seulement les tout premiers temps. Jusqu'à ce que le fuel pour les générateurs s'épuise parce que l'essence pour voiture s'évente au bout de 2 ou 3 ans. Le carburant d'aviation dure plus longtemps, mais c'était difficile de s'en procurer. Plus d'écrans qui brillent dans la demi-obscurité lorsque des spectateurs lèvent leur portable au-dessus de la foule pour photographier des groupes en concert. Plus de scènes éclairées par des halogènes couleur bonbon. Plus d'électro, de punk, de guitare électrique. Un extrait de Station 11 d'Emily Saint-Jean-Mandel qui est l'invitée aujourd'hui de Mauvais Genre dans France Culture à l'occasion du Festival America de Vincennes. Alors cet univers d'après, c'était un film célèbre, Emily Saint-Jean-Mandel que sillonne une troupe de théâtre itinérant, une sorte d'orchestre symphonique et en même temps une troupe shakespearienne qui essaie de maintenir en vie, je dirais, un certain trésor culturel, la musique, puisque ce sont des musiques avec violon, flûte, trompette, et puis Shakespeare, considéré comme le trésor à ne pas oublier, le capital vraiment qu'il faut défendre. Donc maintiennent un peu la présence de cette culture d'avant, cet orchestre itinérant. Donc l'extrait que je viens de lire montre bien un petit peu la volonté que vous avez eue, c'est-à-dire montrer, comme vous l'écrivez, je vous cite, « le compteur du temps avait été remis à zéro par la catastrophe ». C'est-à-dire que l'homme est contraint de redécouvrir ce qu'il avait oublié, à commencer par l'espace, puisque l'espace n'est plus donné. L'homme d'avant avait écrasé l'espace et le temps avec la technique. Et là, plus de technique, donc il faut redécouvrir l'espace. On marche, on monte aux arbres, on traverse des fleuves. Adieu vélo, adieu voiture. Enfin, le vélo, non, on peut toujours s'en servir. Mais enfin, adieu voiture, moto et avion. On redécouvre l'espace, on redécouvre le temps, puisque on compte, on redécouvre le temps qui passe, on redécouvre le calcul du temps, puisque les gens d'après repartent d'un point zéro, donc 1, 2, 3, 4, c'est les nouvelles années qui apparaissent. Donc il y avait une volonté de montrer que tout ce grand refoulé historique, philosophique presque, Emily Saint-Jean-Mandel, eh bien la mort de la technologie le fait revenir comme une vague énorme, et boum, l'homme se redevient, j'ai pas envie de dire qu'il redevient un homme, mais presque, l'homme redevient une créature matérielle.
That is correct. Oui. Time is reset by catastrophe.
Le temps est remis à zéro suite à cette catastrophe. Et en aparté, je dirais que pour Station 11, j'ai participé à 127 événements dans plein de pays différents. Et je me suis rendu compte vers le cinquième interview que j'avais réussi à mémoriser par cœur ce petit chapitre que vous avez lu. Donc moi,
And I would realize I no longer had to look at the page. So it was nice to hear it in French.
Lorsqu'on m'a demandé de le lire en public, je n'avais plus besoin de me plonger dans le texte. Je connaissais tout par cœur, justement parce que ce chapitre joue un rôle important. Et c'était fascinant et terrifiant d'écrire ce chapitre parce que, évidemment, on réfléchit à ce que l'on perd lorsque la technologie disparaît. Il y a des choses que l'on prend pour acquises, mais qui ne sont plus à notre disposition. On n'a plus la certitude de survivre si on est mordu par un chien. Bon, c'est comme ça maintenant, après la catastrophe. Avec l'absence de technologie, tout peut être mortel. Et c'était un exercice très intéressant pour moi de réfléchir à tout ce que l'on prend pour acquis. Et pour revenir à Shakespeare, le capital culturel, oui, c'est tout à fait vrai, ça. Bien souvent, on perd les artefacts de l'art, la peinture, les sculptures, les monuments que l'on perd au fil du temps. Mais une pièce de théâtre, c'est une chose qui vous transporte dans le temps, évidemment. Qu'est-ce qui survit sur le plan culturel? C'est une question que je me suis posée. Eh bien, à mon avis, ce sont les choses qui ne dépendent pas de la technologie, justement. Donc, les violons, ça peut survivre. Pour faire de la musique pop, il faut de la technologie, il faut de l'électricité, il faut des amplis, et ainsi de suite. Donc, Shakespeare joue un rôle important dans ce livre, en dehors de mon opinion, qui consiste à penser que c'est un capital culturel qu'il faut préserver à tout prix, c'est qu'il y a des parallèles fascinants entre l'anglaise élisabéthaine et ce monde que je décris. L'évidence, le rapport au temps est différent. Donc vous avez ces petits comédiens de cette petite troupe itinérante plongée dans ce monde post-apocalyptique. Et j'aime la symétrie entre le potentiel de réussite de cette petite troupe qui n'a pas besoin d'électricité. Et en me plongeant dans la documentation, je me suis rendu compte que l'œuvre de Shakespeare et sa vie étaient marquées par la peste qui avait frappé son pays à son époque. Vous voyez le parallèle, la symétrie. Donc il m'est apparu naturel que ce serait une troupe évidemment shakespearienne et rien d'autre.
Alors c'est un orchestre symphonique itinérant. La musique est un élément déterminant pour votre travail d'écrivain et dans votre imaginaire personnel?
Oui, j'écoute toujours de la musique, pas forcément quand j'écris, mais lorsque je relis, lorsqu'il faut que je me concentre sur ce que je lis. Et moi, il m'apparaît que la musique que j'écoute influence ce que j'écris d'une façon ou d'une autre. Je ne comprends pas tout cela très bien, mais je suis légèrement obsédé par Max Richter, compositeur américain. C'est un compositeur qui fait donc des compositions classiques, contemporaines. Et lorsque j'écrivais Station Eleven, j'écoutais en boucle une playlist sur iTunes qui durait 3 heures et demie. Et dans cette boucle, il y avait un album qu'il a fait, Vivaldi recomposé, je crois, donc les 4 saisons. Hein. Et on entend les thèmes, mais ils ont été revus à sa sauce, et c'est fascinant. Donc je suis passé de là à une bande originale de film.
À côté, Max Richter.
Max Richter. Thank you.
Richter, donc un élément important dans la création de Station Eleven, c'est la playlist d'Emily St. John Mandel. Alors, ce roman donc montre également, enfin analyse, explore toutes les capacités, toutes les possibilités qu'a l'homme justement de vivre dans ce monde d'après, ce monde dit post-apocalyptique. Soit on fait comme si de rien n'était, enfin on continue de maintenir une sorte de présent malgré tout, dans un univers qui est le sien, on ne bouge pas, on tente de survivre dans sa propre demeure, en limitant les dégâts. Soit on prend acte de la disparition généralisée de toute forme de culture et de technologie, et là on rentre dans le grand travail de la mémoire. Il y a un personnage que j'aime bien, qui s'appelle Clark, qui veut créer un musée de la civilisation. Il veut pas créer une nouvelle civilisation post-grippe, mais un musée de la civilisation. Donc là, c'est la mémoire qui devient le présent, et c'est le travail de mémoire qui devient l'avenir, d'une certaine façon. Et puis alors, il y a cet autre personnage qui est lié au protagoniste, on va pas en dire beaucoup plus, qui est le prophète. Alors là, c'est une autre réaction, je dirais, qui est une manière peut-être de dominer la réalité en la mettant entre parenthèses. Il y a une volonté un peu comme ça de maîtrise absolue. Le monde, c'est le personnage, justement, entre dans un délire mégalomaniaque et devient le refondateur du monde, le futur dieu, le nouveau dieu. Là, vous avez aussi voulu faire un petit peu de l'anthropologie, comme ça, d'essayer d'aller à la rencontre de tous les types possibles de réactions de l'homme face à la grande catastrophe.
En fait, j'aurais dû faire plus d'études en anthropologie. J'aurais dû me documenter davantage. En réalité, j'inventais les choses au fil que j'écrivais. Et j'essayais de voir dont on réagit à des événements si catastrophiques et traumatisants. Il y a des gens qui veulent s'agripper au passé. Donc c'est Clark avec son musée de la civilisation. Donc dans ce musée, il y a des objets rassemblés dans un aéroport. Les iPhones, les stilettos, ce genre de choses, tout ce qui nous semble tout à fait banal aujourd'hui, mais qui serait extraordinaire dans un monde post-apocalyptique. Et évidemment, on ne verra plus d'iPhone. Mais qu'est-ce qu'on fait d'un vieil iPhone? Eh bien, en réalité, ça peut servir de presse-papier, mais on ne va pas le jeter non plus, parce que ça a peut-être eu une certaine valeur pour les gens d'avant. Donc, il y a des gens qui réagiraient comme ça. Bon, et dans des situations actuelles où il y a des catastrophes, où il y a parfois le chaos qui règne et où la société se délite, on le voit qu'il y a des vides, et ces vides sont vite remplis par des gens qui veulent s'emparer du pouvoir. Et moi, il me semble que l'on verrait des personnages comme cela dans un monde post-apocalyptique. Tout à coup, la société se délite, il y a un vide et quelqu'un veut avant tout s'emparer de quoi? Eh bien, du pouvoir. Eh bien, donc, nous sommes dans une société où nous prêtons l'oreille quand même à des gourous et ainsi de suite. Prenons David Koresh, des Davidiens au Texas. Là, c'était dans les années 90.
Oui, c'était pour nos auditeurs, ça a été quand même un événement redoutable, puisque le FBI, je crois, a donné l'assaut à la forteresse dans laquelle il s'était retranché avec femmes et enfants, et que ça a été un massacre généralisé. Avec les Guyana, et c'est quand même une des grands faits divers liés à l'univers des sectes.
Donc j'ai lu des choses sur lui, et c'était un personnage évidemment charismatique, et il a choisi des passages dans le livre des Révélations, et évidemment c'est un point de vue post-apocalyptique assez saisissant. Donc je m'imaginais le type de gourou comme ça que l'on pourrait voir émerger s'il y avait une apocalypse, et le personnage du prophète m'est venu. Et à mon avis, c'est tout à fait possible aux États-Unis, où on a cette tendance à trouver une idéologie extrémiste en cas de besoin. Je crois qu'il y a des gens qui sont capables de se laisser attirer par les réponses simples. Et dans une certaine mesure, évidemment, tout le monde va être traumatisé, tout le monde aura perdu des êtres proches, mais pour certaines personnes, il sera peut-être réconfortant de penser que ce traumatisme formidable a eu lieu pour une raison bien précise. Pour moi, ce serait d'autant plus terrifiant. Imaginez que quelqu'un ait eu ce dessein de détruire le monde. Mais généralement, ça peut rassurer les gens. Les gens ont peur du chaos, certes, alors qu'on pourrait quand même retrouver du réconfort dans le message qui est celui prodigué par le prophète, qui vous dit « c'est arrivé parce que ça devait arriver ».
Le monde extérieur s'était vidé depuis la dernière fois qu'il l'avait vu. Rien ne bougeait, ni sur la place, ni dans la rue, ni sur l'autoroute distante. Une odeur de fumée imprégnait l'air avec des effluves chimiques évoquant des bureaux en feu et des maisons incendiées. Mais le plus saisissant, c'était l'absence totale de lumière électrique. Un soir où il marchait dans Yonge Street, aux alentours de minuit, il avait alors une vingtaine d'années, toutes les lumières de la rue s'étaient éteintes. L'espace d'un instant, la ville avait disparu autour de lui, puis les lumières étaient revenues si rapidement qu'on aurait pu croire à une hallucination, les piétons s'interrogeant entre eux pour savoir si tous avaient vu la même chose. J'ai rêvé ou quoi ? Et sur le moment, Jivan avait été parcouru d'un frisson glacé à l'idée d'une ville plongée dans le noir. C'est aussi effrayant qu'il l'avait imaginé. Il n'avait qu'un seul désir, s'échapper.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà, un second extrait de Station Eleven, le roman d'Émilie Saint-Jean-Mandel, mon invité ce soir dans Mauvais Genre sur France Culture, paru aux éditions Rivage. On parlait justement des gourous. La rentrée littéraire française cette année est largement mise sous le signe de Charles Manson. Est-ce que c'est un personnage qui a aussi participé de votre réflexion, Émilie Saint-Jean-Mandel? Il avait un côté aussi millénariste. Il attendait la fin des temps, le grand embrasement. Et il vivait au sein d'une collectivité qu'il avait créée, qu'il tenait d'une main de fer et dont il abusait royalement.
C'est des personnages qu'on voit ressurgir, on les vire par la porte, ils rentrent par la fenêtre, hein, sans arrêt. À vrai dire, Charles Manson, je ne le connais pas très bien. Je connais évidemment l'histoire, mais je ne me suis pas documenté sur Charles Manson pour écrire Station Eleven.
Autre question, Station Eleven, il faut répétons-le, c'est un comics, c'est une création, un travail de l'imagination de Miranda. Là aussi, quelle a été la part des comics et je dirais de l'univers graphique que vous avez pu connaître, américain, canadien, dans l'élaboration et dans votre travail? Parce qu'on parle beaucoup de musique, on a parlé de cinéma avec Arthur Leander, star d'Hollywood, on parlait de littérature, mais la bande dessinée et le comics.
À vrai dire, quand j'étais gamine, je ne lisais pas tant de comics que cela.
Les comics n'arrivaient pas dans l'île.
Si, il y avait des comics dans mon île, mais moi, je n'en avais pas beaucoup sous la main. Mais nous avions des amis qui avaient tous les recueils de Calvin et Hobbes, par exemple. Je me souviens d'une grande pile de Calvin et Hobbes. Donc j'allais chez mes amis et je lisais Calvin et Hobbes, je dévorais, j'adorais ça.
Et je pense plutôt à Marvel ou à DC Comics.
Non, non, je ne vois pas de quoi vous parlez là.
Et donc Calvin et Hobbes, ça a été...
Donc Calvin et Hobbes, très bien.
J'étais particulièrement
enchanté par certains passages de Spaceman Spiff.
Exactly, which was one of Calvin's
Donc,
alter egos.
Oui, c'est l'un des alter egos de Calvin qui c'est un personnage d'astronaute en quelque sorte. Et de temps en temps, Calvin s'imagine qu'il est l'explorateur de l'au-delà et il a sa petite soucoupe volante et qu'il est en train de survoler un monde extraterrestre. Donc il y avait des passages très très drôles dans Calvin et Hobbes, mais c'était magnifique aussi. Sa petite soucoupe volante qui survole des paysages magnifiques quand c'est colorisé par Bill Watterson, c'est magnifique. Et donc je réfléchissais à ça et je me disais à quoi pourraient ressembler les comics dans le monde post-apocalyptique et quelle pourrait être l'influence dans mon écriture. Donc je me mets à écrire Station Eleven, j'ai le personnage de Miranda et je me suis fait une image d'elle très claire dès le début. C'était quelqu'un qui était artiste, mais son art était en marge de son travail quotidien. Alors ça, je sais de quoi je parle dans ce domaine. Et je me suis dit que j'associerais les comics au personnage de Miranda. Mais à mesure que j'écrivais, je me suis rendu compte que je pouvais amplifier cette espèce d'aliénation dans le livre en faisant référence aux comics, Station Eleven. Donc, il y a dans les comics des personnages qui se trouvent sur une station spatiale et dans l'ensemble du récit, il y a des personnages qui se trouvent dans un monde inconnu qu'ils n'auraient pas pu imaginer eux-mêmes. Et moi, je me suis dit que c'est là que je pouvais amplifier cet éloignement, cette aliénation, grâce aux comics, justement. Parce que chaque genre a ses propres règles. Dans le monde du comics, il est tout à fait possible que le personnage dise quelque chose comme « Je regardais mon domicile endommagé, détruit, et j'essayais d'oublier la douceur de la vie sur Terre. » On ne peut pas mettre ça dans un roman de but en blanc. Non, mais dans le monde du comics, ça peut passer, vous voyez. Donc je me sers de ce truchement. Et par ailleurs, d'un point de vue strictement technique, du point de vue de la structure du roman, je me suis rapidement rendu compte que ce serait très complexe, que j'aurais deux espaces-temps, de nombreux personnages, des points de vue différents, et ainsi de suite. Et il m'est apparu que ce serait une bonne idée, pour la cohérence du roman, d'avoir un objet qui passerait d'un espace-temps à l'autre, qui pourrait passer au fil des différents personnages, et ça on le retrouve dans quel genre artistique ? Eh bien dans les comics.
Pascal Comelade, un choix de Laurent Polleret pour ce mauvais genre qui reçoit Émilie Saint-Jean-Mandel à l'occasion de Station Eleven. Vous avez grandi, Émilie Saint-Jean-Mandel, pendant plusieurs dizaines d'années, enfin une jusqu'à l'âge de 18 ans, dans cette île, l'île d'Enman, qui est une île de 5000 habitants, une petite île très au large de la Colombie-Britannique, proche du Canada. Est-ce qu'il vous est parfois arrivé de vous dire que vous étiez les ultimes survivants de l'humanité? Parce que c'est une impression que j'ai eue en me documentant sur votre vie, en voyant le roman. On a l'impression justement de ces communautés comme qui survivent et qui se serrent les coudes parce qu'ils savent qu'ils sont les derniers. Est-ce que parfois de vivre dans une île, ça peut communiquer ce sentiment de rupture?
Not on that island.
Non, there are, pas lors de
there are much
ma vie
more
sur cette
remote
île.
Islands where there
en fait, il y avait
very,
des îles bien plus éloignées que celles où j'ai vécu. Et là, les gens vivent en autosuffisance. Ce sont des gens qui se nourrissent des produits de leur chasse ou de leur pêche pour vivre. Moi,
comme
j'ai
Station
vécu dans cette île que je vous ai décrite,
remote,
qui n'était pas si éloignée de la civilisation que cela, quand même. Il y avait certes l'insularité, mais comme je vous l'ai dit, il suffisait de prendre le bateau et en 10 minutes, on se retrouvait sur Terre. Donc la plupart des gens ne travaillaient pas sur l'île, mais prenaient le bateau.
Imaginez qu'un jour, il n'y ait plus de bateau. Là, on se retrouve un peu dans Station Eleven.
Oui, bien vu, bien vu. On pourrait éventuellement y aller à la rame.
Et donc, vous connaissez, c'est justement cette, très bien, cette mentalité de l'insularité. Puisque l'orchestre symphonique est un peu une île errante, comme ça, c'est pas une sorte d'île humaine.
C'est un bon point. Il y a une similarité là.
Jolie similitude.
What I was thinking about with a symphonic orchestra,
l'orchestre
never
symphonique,
to an orchestra,
je l'ai créé pour la raison que je vais vous décrire. Je n'ai jamais fait partie d'un orchestre symphonique, mais j'ai fait partie d'une troupe de danse. J'ai été danseuse. Et puis j'ai même été dans une école de danse contemporaine. Là, c'était
à Toronto.
Et c'était une petite école avec très peu de gens. On se connaissait tous. Et à mon avis, c'est un petit peu comparable à un orchestre. Vous avez là des gens un petit peu névrosés qui se détestent les uns les autres au bout d'un certain temps lorsqu'ils travaillent. Oui, je crois qu'il y a pas mal de points communs entre une troupe de théâtre et une troupe de danse.
Il y a deux figures qui se répondent dans Station Eleven, Emily St. John Mandel. Il y a celle d'Arthur Lander et celle du prophète. On ne dira pas pourquoi. Mais justement, il y a tout un travail chez vous sur la notion du charisme, le charisme de l'acteur et le charisme du prophète. On peut dire que le prophète est une sorte d'acteur comme ça du monde d'après et qu'il répond un petit peu aux tragédiens du monde d'avant. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'échange entre la figure de la grande figure de l'acteur shakespearien, de Laurence Olivier jusqu'à Kenneth Branagh et autres, et puis la figure du gourou qui a à peu près la même fonction, qui est une fonction comme ça de figure que l'homme que l'on écoute, l'homme que l'on suit, l'homme dont l'énergie, dont on vit à l'intérieur de son énergie, même si c'est une énergie négative.
Absolutely. This is also something that I think of a little bit in relation to your previous question in terms of.
Je reviens à une question que vous avez posée précédemment pour répondre à celle-ci.
Part of this orchestra and dealing with.
Donc, il y a les membres de l'orchestre.
Which is really the same as working in an office.
Et c'est un petit peu comme quand on travaille dans un bureau. On a des collègues de travail.
We are always acting when we're with other people.
On est quand même en représentation. Lorsqu'on est les uns avec les autres, on joue tous un rôle. On est légèrement différent chez soi de ce que l'on est lorsqu'on est au travail. Et on est une personne différente lorsqu'on est avec ses amis. Et on est différent lorsqu'on est avec ses amis d'enfance ou lorsqu'on est avec ses amis que l'on a rencontrés lorsqu'on était adulte. Mais il y a dans tout cela un élément de jeu d'acteur. Alors, on peut être très sincère, évidemment, on peut être authentique, mais malgré tout, dans toutes ces situations de la vie, on joue un rôle. Arthur et le prophète sont des personnages qui jouent des rôles, mais de façon un petit peu plus théâtrale, disons.
Merci, Emily St. John Mandel, d'avoir été l'invitée de Mauvais Genre. Je voulais comme définir un petit peu. Je cherchais tout au long de l'émission quelle était un peu l'expression qui me permettrait le mieux de définir votre monde pour nos auditeurs et pour les habitués du festival. Il m'est venu l'idée d'une toile du peintre Max Ernst qui s'appelle Tremblement de terre très doux.
It's wonderful. Thank you. I'll look for it.
J'avais l'idée d'être le tremblement de terre très doux de la.
Oui. Yeah, I love that phrase.
Oui, c'est merveilleux. Merci beaucoup.
Merci donc d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle évidemment et je conseille largement, chaudement, ce roman qui a déjà un énorme succès international. Espérons que la France répondra aussi à ce succès. Station Eleven d'Emily St. John Mandel, c'est aux éditions Rivage. Et puis je signale également les précédents romans que l'on peut lire chez vous, chez Rivage. Variation Sébastien, la dernière nuit. pas dire de faire d'erreur, pardon, Dernière nuit à Montréal, et puis On ne joue pas avec la mort, c'est dans la collection Rivage Thriller. Merci Xavier Combe d'avoir traduit les propos d'Émilie Saint-Jean-Mandel, toute l'équipe de Mauvais Genre, donc Laurent Polleré, Claire Martin-Dugard, Anaïs Isbert, la technique Christophe Michon, Loïc Duros, Sébastien Huvel et Laurent Dandalex, donc vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain pour Mauvais Genre, et là on continuera à tailler la route du fantastique et du bizarre, puisqu'on parlera du film de Robert Mulligan, L'Autre. Vous connaissez ce film de Robert Mulligan, L'Autre, histoire de ce film effrayant, de fantastique gothique rural, un enfant en proie véritablement à une hantise. Et c'est donc le sujet de Mauvais Genre de samedi prochain. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.